Gloire à Dieu, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Il est écrit ceci. Nous donc aussi, à partir du premier verset, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'apôtre nous exhorte à avoir les regards sur Jésus, les regards fixés sur Jésus. Lui qui apporte la foi, c'est lui qui suscite, qui crée la foi et qui l'a construit. Et il nous est dit que pour nous sauver, Jésus a été crucifié à la croix. Alors, je sais que c'est ce dont je vais parler. Beaucoup vont se dire, mais nous connaissons ça. Mais la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas un livre d'histoire. Voilà. Et nous la portons non pas pour remplir un cerveau, mais pour ouvrir la porte à la vie. Et le titre, c'est Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul qui peut nous sauver. On a chanté tout à l'heure, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Et Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour être notre salut. Et c'est un salut total. Jésus seul. Parce que souvent nous sommes distraits par autre chose. Une des grandes stratégies du diable, c'est de nous distraire. Ce n'est pas de s'opposer frontalement. En s'opposant frontalement à nous, parfois même il nous réveille. Mais la distraction nous endort. La distraction nous éloigne de la route. Souvenez-vous que le Seigneur avait dit quoi ? Quand il a envoyé ses disciples en mission, il a dit « Ne vous arrêtez pas en chemin. Attention. » Quand Dieu avait envoyé le jeune prophète, il a dit « Quand tu as fait ta mission, tu changes de chemin. Ne retourne pas par le même chemin et n'accepte pas d'invitation. » Parce que la distraction est plus forte que l'opposition. Donc on l'a vu, ce jeune homme face à l'opposition du roi, hein, dans 1 Roi chapitre 13, il avait tenu bon face à l'opposition du roi, mais face à la distraction du vieux prophète, il a succombé. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Une des grandes stratégies du diable, c'est de nous distraire, de nous amener à avoir les yeux fixés sur autre chose, sur la façon de prier, sur la façon de lire la parole, sur des guerres de doctrine. Il va nous distraire. Il va chercher à nous distraire. C'est pourquoi Paul dit, il faut avoir le regard sur Jésus. La foi vient de Jésus. Ça ne vient pas de ta bonne façon de faire. Ça ne vient pas de l'atmosphère d'un culte. C'est Jésus qui dépose la foi. Est-ce que quand le voleur à la croix a reçu la foi, quelle atmosphère il y avait, quelle louange il y avait, quel concert il y avait? Il a reçu parce qu'il y avait qui à côté de lui? Celui qui produit la foi. Jésus seul. Et on a tendance, quand on est devenu chrétien, avec le temps, à nous confier à notre expérience, à notre connaissance, à nos structures, au lieu de nous... à notre être. Parce que on pense être supérieur aux autres. Et du coup, on pense même plus à avoir besoin de Dieu. C'est ça la réalité. Et je veux nous rappeler aujourd'hui que on doit fixer nos regards que sur Jésus. Jésus seul est la réponse de Dieu pour tout. Pour tout. Pour des questions de mariage, Jésus seul est la réponse. Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que c'est Pierre qui va bâtir son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Quand il a envoyé dans Matthieu 28, 18, 20 en mission, ses disciples, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Toute la Bible est remplie d'exemples qui montrent que c'est Jésus seul qui peut sauver. C'est Jésus seul qui peut encadrer. C'est Jésus seul qui peut convaincre dans les cœurs. C'est Jésus seul. Mais attention à la distraction qui nous amène à oublier cela. Nous lisons dans Matthieu 14. Matthieu 14, 22-23. Sommes-nous en train de dire que, bon, la prière c'est inutile, la lecture de la parole c'est inutile, les responsables c'est inutile? Non, nous disons que dans tout cela, on doit avoir le regard fixé sur Jésus. Tu es invité chez des bien-aimés dont les chants dans leur culte est lent, mais toi tu ne vas pas perdre ta communion parce que les chants sont lents. Toi tu vas chercher Jésus dans cette atmosphère-là. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire « Ah ben désormais j'ai pas besoin de prier, désormais j'ai pas besoin d'obéir à nos conducteurs. » Non, on est en train de dire tout simplement que dans tout cela, il faut avoir le regard fixé sur Jésus. Marcher avec lui. Parler avec Jésus. L'écouter dans tout ce que nous faisons. Que Jésus soit là. Car Jésus seul est la solution. Et quand nous sommes avec lui, c'est lui qui peut nous dire « Écoute ce que je dis à travers un tel. » C'est lui qui peut nous dire « Chante », qui peut nous pousser à crier, qui peut nous pousser à prier. C'est lui. Mais nous devons nous concentrer sur lui, tout en recevant les autres choses que Dieu nous sert. Et dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, il est écrit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» Et il dit, « Viens, Pierre, viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers qui ? Pour aller vers Jésus. Quand on va vers quelqu'un, on le regarde. Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourquoi a-t-il douté ? Parce qu'il a regardé au vent. On dit, « Comme me voyant, me regardant au vent, à la force du vent, il a été distrait de regarder qu'à Jésus. » Il a regardé à la force du vent. Il a regardé à ce qui se passait tout autour. En regardant tout ce qui se passait tout autour, il a négligé de fixer le regard que sur Jésus, qui est, on a lu dans Hébreux 12, celui qui produit la foi. C'est lui qui produit la foi. Et lui, il a regardé au vent. Et je peux nous dire que la plupart de nos échecs sont dus au fait qu'on a négligé de regarder à Jésus. La plupart de nos échecs, on dit, j'ai été tenté, on m'a fait un piège, tout ce qu'on veut. Mais bien aimé, quand tu es avec Jésus, toutes ces histoires-là, pièges, tentations, sont sans effet. Tu triomphes de ça. Mais quand nous chutons, quand nous tournons en rond, quand nous faisons du surplace, en général, c'est qu'on a commencé à négliger de regarder à Jésus. On a commencé à chercher en nous-mêmes une force qui nous maintiendrait sur la route. On a commencé à chercher en nous-mêmes l'erreur qu'on est en train de commettre. Je ne suis pas contre ça, mais il faut savoir une chose. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché. Le Saint-Esprit est plus fort que nous pour voir le péché en nous. Mais quand on commence à faire un exercice humain, de vouloir chercher l'erreur qu'on commet qui fait qu'on traîne, c'est un exercice humain. Dieu voudrait qu'on prie, qu'on dise « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Donc le regard fixé toujours sur Jésus. Jésus est mon sauveur, Jésus est ma solution. David a dit « Sonde-moi, ô Dieu !» Il n'a pas fouillé lui-même. Mais quand on commence à faire tout ça, chercher quelle façon de prière on doit travailler pour obtenir ce qu'on veut obtenir, on est en train d'être distrait. Les regards doivent être fixés sur Jésus. Jésus est le don de Dieu. C'est un salut total. Ce n'est pas un ticket pour le ciel. C'est-à-dire quand Dieu a donné Jésus, il nous l'a donné à chacun à l'époque. Tu prends, tu ingurgites Jésus en toi. Jésus a dit, il faut me manger. C'est-à-dire que c'est une nourriture de tous les jours, Jésus. Si quelqu'un ne me mange pas, il n'ira pas au ciel. C'est Jésus qui le dit. Le Seigneur nous l'a donné en cadeau. Il dit, ceci est mon corps livré pour vous. Je me donne en cadeau. Prenez-moi entièrement. Et Pierre a regardé au vent. Je crois que quand il a regardé au vent, il se dit, mais c'est dangereux. Les doutes ont commencé en ce moment-là. Il fallait qu'il ait les yeux fixés sur Jésus. Mais bien aimé, nous connaissons la capacité de nos yeux. Même là, je suis en train de regarder dans la caméra, je vois les mouvements qui sont à côté, plus ou moins. Mais mes yeux quand même sont fixés sur la caméra. Et quand les yeux sont fixés sur Jésus, ça ne veut pas dire qu'on néglige totalement ce qui se passe autour. Mais on reste en position de recevoir la foi en Christ. Quand on dit les yeux fixés sur Jésus, il ne s'agit pas de nos yeux physiques, il s'agit de notre esprit qui est concentré sur lui, qui est à son écoute, qui le recherche. Tu recherches le Seigneur dans la parole. Tu te dis que dans tous les cas, la solution c'est Jésus. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Dans tous les cas, c'est lui. Je dois trouver Jésus. Et moi, parfois, je dis, mais quel ange, qui va m'ouvrir la porte pour discuter avec Jésus? Voilà. Donc, c'est lui qui est la solution. Je dis, mais qui va m'amener l'audience? Parce que je sais que si j'entre là-bas, tout est réglé. Voilà, c'est une façon de parler pour dire que toute solution vient de lui. Alors, c'est lui qu'il faut chercher. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus ce qui se passe ailleurs. Naturellement, nos yeux voient. Mais on nous demande de fixer les yeux sur Jésus pour recevoir la foi, de nous concentrer sur sa parole. Tout simplement, tel qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'on a dit à Pierre? Viens! Et tant qu'il regardait à Jésus, il marchait. Parce que c'est Jésus qui était sa force. Quand il regardait à Jésus, il voyait quoi? Il voyait un homme debout sur l'eau. Donc ça l'encourageait à être aussi debout sur l'eau. Mais quand il a regardé au vent, il n'a plus vu un homme debout sur l'eau. Il a vu un vent dangereux. C'est ça. Quand on regarde à Jésus, on voit celui qui est crucifié à la croix qui a dit « Tout est accompli ». Et on est encouragé à fonctionner. Quand on regarde à Jésus, c'est sa parole. On voit Joseph en prison, des années durant. On voit Joseph persécuté. Et puis Joseph devenir premier ministre. Ça nous encourage à continuer. Mais quand on commence à regarder aux moqueries des gens à côté, quand on commence à regarder à la méchanceté des gens à côté, quand on commence à regarder à notre propre force, et on n'en trouve pas, il y a des gens même parfois qui se concentrent pour chercher une force, il n'y en a pas. On finit par dire, je vais adopter telle méthode, je vais faire telle chose. Nos raisonnements commencent à nous guider, nous perdons notre foi. Les regards, il n'y a que Jésus seul. Jésus seul est la réponse, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Jésus seul. Paul l'a dit. Les yeux fixés sur Jésus. Et quand Pierre commence à enfoncer, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a regardé à nouveau à qui? À Jésus. On est des humains. Quand on s'est trompé, on commence à enfoncer dans l'eau. Le Seigneur est miséricordieux. Levons nos yeux, regardons à nouveau à lui. Il a de nouveau regardé à Jésus, il a vu un homme debout sur l'eau. Alors il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» En ce moment-là, tous les raisonnements scientifiques du genre, « Mais comment il peut être debout? Est-ce qu'il n'y a pas une pierre en dessous ?» Tout ça, ça a disparu. Il a vu un homme debout sur l'eau qui peut le sauver. Alors que quand il a regardé au vent, il a vu que le vent, il a été distrait. La source de sa foi n'était plus devant lui. Bien-aimé, quand nous allons fixer les regards sur Jésus, nous allons le voir assis à la droite du Père. Étienne, pendant qu'il était lapidé, il a regardé au ciel. Ses yeux se sont ouverts. Il a vu Jésus debout à la droite du Père. Ah, il a pu faire quoi? Il a pu dire, Seigneur, ne leur retiens pas ce péché. Vous savez, quelqu'un qui est en position de force, il pardonne. C'est les gens qui souffrent, qui sont en position de faiblesse, qui se sentent perdants. C'est eux qui sont en colère et qui ne pardonnent pas. C'est eux qui sont en colère et qui détestent les autres. Mais quand quelqu'un se sait en position de force, il peut pardonner facilement. Combien de gens bien-aimés n'ont-ils pas pardonné parce que quand on a accidenté un tout petit peu ou rayé leur voiture, ils savent que ah, mais les assurances vont payer. Et ils te disent, mais monsieur, il n'y a pas de problème, ne vous dérangez pas. On remplit le constat et puis les assurances vont s'en occuper. La personne est souriante parce qu'elle sait qu'il y a la solution. C'est pourquoi les gens pardonnent. Quand Étienne voit Jésus debout à la droite du Père, pour lui Étienne, mais qu'est-ce qu'il a encore à garder rancune de tous ces gens-là qui ne comprennent pas ce qu'ils font? Et Seigneur, ne leur retiens pas le péché. Étienne est en position de force. On le lapide, mais la vision du Seigneur le met en position de force. La vision du Seigneur. Nous devons voir la vision du Seigneur des affaires. Une affaire peut paraître négative, mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu es dans sa vision. Tu es rempli de force. Tu te dis, mais c'est ça alors. Il a fait pour moi. Il m'a déchiré pour sa gloire. Il m'a déchiré pour que l'esprit vive. Tu te dis, oh Seigneur, merci. Merci pour ces difficultés. Job a dit, mon oreille t'entendait, maintenant mon œil te voit. Quand il s'est senti en position de force, il n'a plus regardé à toutes les pertes qu'il a subies. Parce qu'il était en position de force. Mais tout ça, ça vient d'où? Il a dit quoi? Maintenant, mon œil t'a vu. Ça vient d'avoir les yeux sur Jésus seul. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus seul, tu auras sa vision. Et les choses vont changer. Tu vas comprendre que tu es en position de force. C'est très important. Tant que le voleur à la croix regardait à sa propre souffrance, il se disait quoi? Il injuriait même Jésus. Ah, on souffre. Parce que dans un évangile, on montre que les deux insultaient le Seigneur. Et ensuite, un de deux change de position. Mais pourquoi ils injuriaient le Seigneur? Parce qu'ils regardaient à leur souffrance. Ils se lamentaient de leurs problèmes. Maintenant, quand un s'est concentré sur Jésus, il a regardé à Jésus, tout a changé. C'est là qu'il s'est dit, mais il n'a jamais péché cet homme. Il n'a pas fait de mal. J'ai appris qu'il a guéri des malades. Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher des paralytiques. J'ai appris qu'il serait le Fils de Dieu. Et ça se voit même là, on est en train de l'injurier, il ne répond pas. Quand il a commencé à penser à Jésus, il a eu la vision de la grandeur du Seigneur au ciel. C'est là qu'il a sorti la prière, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Parce qu'il a eu la vision de Jésus. Bien-aimé, le regard fixé sur Jésus seul. Quand il avait le regard fixé sur son copain bandit à la croix, quand il avait le regard fixé sur les Romains, fixé sur sa propre souffrance, ça n'a sorti que blasphème, injure contre le Seigneur. Mais quand il a regardé au Seigneur, il a vu l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a vu l'homme sans péché, l'homme pur. Il a vu la gloire, il a dit, mais c'est lui notre salut. Je n'avais pas vu ça, mais parce qu'il était distrait par autre chose. Bien-aimé, le regard fixé sur Jésus. Regardez à Jésus. Quand tu regardes à Jésus, les choses deviennent petites face à lui. Mais quand tu regardes aux choses, elles semblent grandes. C'est simple de regarder à Jésus. Ça veut dire donc que tu acceptes la parole telle qu'elle est, dans la simplicité. Dans la simplicité. Beaucoup vont dire, mais oui, pasteur, on a appliqué ce que tu as dit, mais le Seigneur ne nous a pas délivré de ceci, de cela. Oui, Joseph aussi. Joseph, il était fidèle au Seigneur, mais il est resté en prison. Mais attention, être en prison, ça ne veut pas être, ça veut pas dire être perdant. La vraie puissance, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas être dans un château. Ce n'est pas voir des choses matérielles. Ce n'est pas être marié et avoir des enfants. La vraie gloire, c'est la gloire du ciel. Joseph avait cette gloire-là. Et quand il commençait à baisser, à fixer le regard sur les autres choses, il était déçu. Il l'a fait une fois. Il a fixé le regard sur un homme, un collaborateur du roi, à qui il avait prophétisé de bonnes choses. Ça s'est accompli. Et quand cet homme-là sort de la prison, Joseph lui dit, « Est-ce que tu pourrais voir le roi pour moi ?» Voilà ce que Satan nous susurre. Il dit, « Mais ça fait longtemps que vous attendez telle chose. On a appris qu'en Corée, il y a un serviteur qui remplit les stades. On a appris qu'aux États-Unis, il y a un tel qui fait des choses. Est-ce que tu ne pourrais pas voir cette personne-là ?» Jésus a dit, quand vous entendrez que je suis à gauche, je suis à droite, n'y allez pas. Là où vous êtes, je peux arriver parce que je suis tout puissant, je suis omniprésent. C'est là qu'on va commencer à te dire, mais pourquoi tu n'essayes pas telle chose? Et Joseph a dit à ce monsieur-là, est-ce que tu pourrais contribuer à ma délivrance? Mais il est écrit clairement que cet homme a oublié Joseph. Mais c'était la volonté de Dieu pour qu'on comprenne que Dieu seul, voilà le terme, Dieu seul, Jésus seul, lui seul, chercher ailleurs va te créer des complications. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Quelle est la vision de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois en lui? Lis la parole. Cherche sa face. Tu verras que quand lui, tu vas avoir maintenant son visage en face, ton problème va devenir tout de suite petit. Tu vas en ressortir changé. L'apôtre Paul a dit, nous, dans 2 Corinthiens 3, 18, nous dont le visage découvert, donc le visage non voilé, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Quand tu contemples le Seigneur, finalement, il y a une transmission. Lui-même, il le dit, il est l'auteur de la foi. C'est lui qui voit. Il y a une transmission. On ne te demande pas de te concentrer, on te demande de le contempler, lui. Mais physiquement, on ne le voit pas. Mais à travers sa parole, on le contemple. On lit sa parole tout simplement. Et quand tu lis sa parole tout simplement, dans le but de recevoir les choses du ciel, il faut lire dans cet esprit-là, pas dans le but d'être un grand connaisseur de la parole, mais dans le but d'être connecté au ciel, dans le but de recevoir du ciel. Quand tu pries dans le but d'être ensemble avec le Père, de vivre avec lui, pas dans le but d'être un grand intercesseur, non, dans le but de rencontrer Dieu, parce que c'est Dieu qui règle tout, c'est Jésus qui règle tout. Quand tu le fais dans cet esprit-là, Dieu vient aussi. Mais quand tu le fais, comme Jésus a dit, comme les pharisiens qui multiplient beaucoup de paroles, croyant que c'est en multipliant beaucoup de paroles qu'ils seront exaucés, ils se trompent. Le but, c'est de rencontrer Dieu. La prière, c'est le moyen de rencontrer Dieu. Maintenant, dès que tu l'as rencontré, c'est ce que Jésus a dit. Mais les disciples sont déjà, je suis déjà avec eux. Pourquoi ils vont prier encore? Je suis là. Ils m'ont déjà rencontré. S'ils ont un problème, moi, je règle. Le jour où je ne serai plus là, ils me chercheront dans la prière. C'est ce que Jésus a dit. Ils me chercheront dans le jeûne. Le but du jeûne, le but de la prière, c'est rencontrer le Seigneur. Maintenant, quand il y a eu rencontre, mais lui, il fait tout. Les yeux fixés sur Jésus seul. C'est comme ça que Pierre, quand il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Il a été sauvé. Le Seigneur l'a récupéré. Ce n'est pas la religion juive qui l'a sauvé. Ce n'est pas sa détermination qui l'a sauvé. C'est Jésus qui l'a sauvé. Jésus seul est la réponse. Que personne ne nous distrait là-dessus. L'église, c'est bien. Les prédications, c'est bien. Mais sans Jésus, tout cela est vain. Nous devons chacun marcher avec Jésus. Chacun doit avoir Jésus à tout moment, fixer le regard sur lui, dans la communion fraternelle, être avec le Seigneur. Le Seigneur doit être présent. Il nous a dit, mais il est présent, mais il doit être présent en toi. Donc, ça veut dire que tu dois faire le choix qu'il soit présent pour toi. Mais lui, il est déjà présent. Mais tu peux l'ignorer. Il y avait deux voleurs à la croix, il y a un qui a ignoré le Seigneur. Il a méprisé. Alors qu'un a pris au sérieux le Seigneur, il a observé et les choses ont changé pour lui. Jésus seul. Nous lisons dans Jean chapitre 2 l'exemple de quelqu'un qui savait à qui il avait affaire. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Il est écrit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Bien-aimé, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils vont prier que pour recevoir le Saint-Esprit, ils vont prier que pour... être un serviteur fidèle, hein, mais la mère de Jésus savait que Jésus était le sauveur dans tout, voilà, et qu'il était tout puissant. Quand il y a eu ce problème de manque de vin aux noces de Cana, il est venu voir Jésus pour lui dire, ben, il n'y a plus de vin. Et il y a beaucoup de petits sujets, de petits sujets que nous oublions d'amener au Seigneur. Et je crois que à la place de Marie, beaucoup de chrétiens allaient dire, ah ben c'est une fête. Bon, voilà, c'est bien qu'il n'y ait plus rien, que la fête s'arrête, qu'on aille prier. Ils auraient trouvé ça un sujet inutile à adresser au Seigneur. Et il y a plein de sujets comme ça. Un enfant qui te manque de respect, c'est un sujet de prière. Ah non, moi-même je règle. Ces enfants-là doivent apprendre à respecter les parents. Allez, je tape, je crie. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas faire quelque chose, parler, corriger, mais on dit, mais il faut que toujours on ait les regards fixés sur qui? Sur Jésus. Jésus seul peut tout régler, bien-aimé. Comment expliquer? Dieu, sur son trône, dit, mais je leur ai donné mon fils. Pourquoi ils n'utilisent pas mon fils? Il est étonné que tu es en train d'élaborer des théories tout seul. Il dit, ce garçon-là, il fait des aventures. Cette fille-là, elle devient folle. Mais il y a Jésus. Marie ne s'est pas compliquée. Elle est partie voir le Seigneur. Il n'y a plus de vin. La foi d'un enfant. Beaucoup de sujets, on a des petits sujets, on les règle nous-mêmes. Et les problèmes ne finissent pas. Il suffisait de dire, Seigneur, regarde. Regarde le problème. Et quand Jésus a pris la chose en main, il a dit remplissez les jars d'eau. Les gens pouvaient aussi contester. Ah bon, puisqu'il dit ça, on fait. C'est ça avoir les yeux fixés sur Jésus. On ne voit pas. Marie leur a bien dit, hein. Faites tout ce qu'il vous dira. N'est-ce pas? Donc Marie a prévenu ces gens-là. Faites, c'est écrit, hein. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Moi, je le dis à nous tous aujourd'hui. Fais ce que le Seigneur te dit. C'est dans la parole. Fais ça. Ne cherche pas à réfléchir. Mais oui, mais on a fait ça hier. Mais d'accord, tu as fait ça hier. Aujourd'hui, c'est dans la parole. Fais ce qu'il dit. Ne t'embête pas. Tout ce qui s'embête galère. Au fait, on se dit, mais hier j'avais prié au nom de Jésus. Rien ne s'était passé. Aujourd'hui encore, je dois prier au nom de Jésus. Puisque hier ça n'a pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est ça le raisonnement humain. Donc du coup, aujourd'hui, je vais prier comment? Je vais prier selon ce que j'ai entendu un prédicateur prêcher, les 7 clés de la délivrance. Je vais utiliser les 7 clés. Quelles clés? C'est des escroqueries. Tout le temps des 7 clés. Vous savez, tout ça, ça vient des films qu'on avait vus autrefois, les sept prises de Shaolin, les films de karaté. Donc aujourd'hui, les gens transformaient ça dans les choses de Dieu. Les 7 clés de ceci, les 7... Non! La clé, c'est qui? C'est Jésus. Tout simplement. Dieu nous a facilité la tâche, mais on n'aime pas quand c'est facile. Le petit garçon, il avait 5 pains, 2 poissons. Ils ont amené. Est-ce qu'ils ont distribué ça aux gens? Non, ils ont amené chez qui? Chez Jésus. Voilà, nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, faites-les asseoir. Ah, il est la solution. Il est la solution. Que personne ne te trompe. C'est Jésus seul. Pas quelqu'un d'autre. Pas un système. Pas une façon de faire, c'est Jésus seul. Si tu l'ignores, malgré tes belles façons de faire, tu vas créer une secte, tu vas créer un faux mouvement qui n'est pas chrétien parce que tu as ignoré le Seigneur. Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Mais aujourd'hui, les gens, au lieu de faire ce qui est écrit, ils disent, ah oui, mais c'était autrefois, du temps de l'Ancien Testament. Oh, mais c'était autrefois. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Oh, c'était autrefois. Mais c'est écrit. C'est écrit. Et il y en a qui vont prendre qu'un seul verset. Ils vont négliger volontairement tous les autres versets. Donc, qu'un seul. Ils vont marcher que sur ce seul verset-là. Hier, j'ai lu l'histoire d'un pasteur, entre guillemets, hein, parce qu'on ne sait pas, avec ce que je veux vous dire, ce qu'il était vraiment, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'évangile, a bâti dans les années 83, je crois, une œuvre, une église en Suède, dans la ville d'Uppsala, un certain Ulf Ekman. L'église a tellement grandi, il y a même des bien-aimés qui sont avec nous, qui, à l'époque, dans les années 90, ils étaient même partis là-bas, ils avaient des réunions à 5000 personnes. Il était sur la parole de Dieu, et même ils considéraient le catholicisme comme étant diabolique. Et vous savez, aujourd'hui, ce pasteur-là est devenu quoi ? Eh bien, il est devenu catholique. Il a pris le verset où Jésus parle de l'unité, il en a fait sa doctrine. Bien-aimé, le Seigneur veut qu'on soit unis. Mais ce n'est pas le seul verset de Jean 17. Il y a d'autres versets dans 2 Corinthiens 6, 14, à quelque chose qui nous disent qu'on ne doit pas s'unir avec les infidèles. Donc lui, il a pris unité. Donc à partir de là, nous devons nous unir avec tous ceux qui se disent chrétiens. Non, puisque le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 7, ce n'est pas ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, qui sont de moi. Voilà. Donc il n'y a pas qu'un seul verset. Il y a des gens qui vont prendre qu'un seul verset. Ah, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ah, donc je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin de pasteur. Et les autres versets qui disent que Dieu a établi les responsables pour nous conduire, et ce n'est pas leur problème. En fait, c'est des orgueilleux. C'est des gens qui détournent leur regard de Jésus. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus, aujourd'hui, on le voit plus physiquement avec les yeux, mais on le voit à travers sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Prends ce qu'il dit simplement. Pourquoi tu veux compliquer? Parce que tu n'as plus le regard fixé sur Jésus. Tu oublies que c'est Jésus seul qui est la solution. Tu commences à croire que toi-même, tu vas créer une solution. T'es rien du tout. Tu vas mourir, tu vas passer, d'autres vont continuer l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est la solution parce qu'il est éternel aussi. Respectons simplement ce qui est écrit, bien-aimé. C'est Jésus seul. Ça, c'est un point très important. Quand on dit Jésus seul, ça veut dire prends Jésus dans la simplicité telle que c'est écrit. Prends-le comme ça. Faites ce qu'il vous dira. Ils ont amené les 5 pains de poisson. Jésus a dit, faites-les asseoir. Ils ont obéi. Maintenant, il a pris le pain, il a prié. C'est Jésus qui est seul la solution. C'est important. Vous savez, j'ai lu une histoire aujourd'hui dans un livre de pensées en 365 jours. C'est que il est question d'un homme qui, dans un moment de chaleur forte, s'est retrouvé dans un village et il avait très soif. Et à un moment donné, il voit une fontaine. Quand il s'approche de la fontaine, il ne voit pas de robinet. Il cherche le robinet, il ne voit pas. Mais comment il sait que c'est une fontaine? C'est la forme. Et l'écrit disait, penchez-vous et buvez. Penchez-vous et buvez. Vous avez bien entendu, hein? Penchez-vous et buvez. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher le robinet. Est-ce que l'écrit avait dit, il y a un robinet? Non, l'écrit a dit, penchez-vous et buvez. Mais comme on a l'habitude de prendre l'eau d'eau, des robinets, le raisonnement humain commence à entrer. Lui cherche le robinet. Par habitude. Nous avons beaucoup d'habitudes comme ça. Quand maintenant la parole de Dieu dit quelque chose, on a du mal à suivre. Parce que dans le monde, on est habitué à faire de telle manière. Dans mon ancienne église, je faisais comme ça. Avec mes cousins, on fait comme ça. Mais non, c'est ce qui est écrit, tel que le Saint-Esprit nous conduit, tel que c'est écrit. Tout simplement, c'est écrit, penchez-vous et buvez. Il n'a pas trouvé le robinet. Maintenant, il cherchait quoi? Un mécanisme, un bouton. Peut-être qu'il y a un bouton, on va appuyer, l'eau va sortir. Après, il se dit, mais tiens, la phrase dit, penchez-vous. Et buvez, je vais me pencher et boire. Et quand il s'est penché, le mécanisme de capteur a détecté sa présence. L'eau a commencé à sortir. Et il a bu. Au fait, il fallait justement, tout simplement, se pencher. Vous savez, il y a des capteurs, vous savez, il y a certains feux rouges. Quand la voiture se rapproche, c'est là que, vous savez, là où il n'y a pas beaucoup de trafic. Donc on ne veut pas mettre de feux, ça peut déranger certaines personnes. Ces feux-là ne passent au vert que lorsque une voiture s'approche. Non, non. si tu ne t'approches pas, est-ce que la porte automatique va s'ouvrir? Non. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent que quand tu t'approches. Revenons à notre sujet. C'est que j'ai pris ces exemples pour parler des capteurs. Quand tu t'approches, il y a un capteur qui détecte ta présence, ça ouvre la porte. Mais le sujet, c'est quoi? C'est qu'en se penchant, le capteur allait être à la hauteur de la tête et allait déclencher le mécanisme de sortie d'eau. Mais lui, il cherchait quel robinet allait sortir l'eau. Il n'a pas trouvé de robinet. Il cherchait le bouton. Il n'a pas trouvé. C'est là qu'il s'est dit, mais je me suis en train de m'embêter. L'écrit dit, penchez-vous et buvez. Et il s'est penché, l'eau est sortie, il a bu. Tout simplement. Prenons la parole de Dieu dans la simplicité. Je peux vous dire une chose. Dès que la parole devient compliquée pour vous, ce n'est pas pour vous. N'entrez pas dans les trucs compliqués. Dieu est bon, il est amour, il est notre Père. Il est plus bon que toi, frère. Il est plus bon que toi, ma sœur. Si toi, tu ne compliques pas tes enfants pour manger, tu ne compliques pas tes enfants pour laver leurs vêtements, toi, tu crois que Dieu va te compliquer pour être en communion avec toi? Dès que ça devient compliqué, ce n'est pas de Dieu. C'est un sujet qui ne te concerne pas. Dès que ça commence à devenir flou, compliqué, c'est des débats de 4 heures, de 3 heures, sors de ça. La parole de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas des débats, ce n'est pas des discussions. C'est la vie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, l'homme de Dieu n'a pas entré dans les querelles sans fin. La parole de Dieu, c'est la vie. Ça communique la vie. Marie a dit, il n'y a plus. Elle est partie voir Jésus. Allons voir le Seigneur, bien-aimé. Dans Jean 19, 30, Jésus a dit, j'ai tout accompli. C'est fini. J'ai tout réglé. Nous lisons Jean 5, bien-aimé. Jean 5, 24 à 28. Jean 5, 24 à 28. Il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La vie vient de la parole. Celui qui écoute la parole du Seigneur, il reçoit la vie. En vérité, je vous le dis, verset 25, l'heure vient. Et il dit que cette heure-là a déjà commencé. Et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc Jésus nous explique que sa parole, qui est lui-même, a la vie. Quand tu l'entends, ça n'est pas qu'on pense que notre thème, c'est Jésus seul. Donc, fixer le regard sur Jésus seul. Mais nous, comme on ne peut pas le voir physiquement aujourd'hui, fixer le regard sur Jésus seul, c'est prendre sa parole, prendre sa vie comme exemple, prendre sa parole comme nourriture, comme ligne à suivre. Tout simplement, comme exemple. Vous savez, quand les gens font la doctrine de prospérité, comme quoi c'est quand on est riche, qu'on est avec le Seigneur, qu'on est béni. Ouais, mais si quelqu'un est simple, quand il observe Jésus, voit-il un homme riche? Quand il entend Jésus, Jésus a dit, il est difficile à quoi? Aux riches d'entrer au ciel. Donc si quelqu'un est simple dans son fonctionnement et qu'il lit la parole, il ne va jamais tomber dans le piège des prédicateurs de la prospérité. Mais c'est parce qu'on se laisse compliquer, on se laisse distraire. Mais quand quelqu'un lit tout simplement la parole de Jésus, il voit un homme simple. Il voit un homme qui dit, il n'a ni maison, ni toit où dormir. Et les gens vont maintenant, ils ont créé l'histoire comme quoi Jésus avait une tunique unie. C'est seulement des tuniques de ce genre-là. À l'époque, ça coûtait très cher. Et donc, à cause d'une tunique, donc on va considérer que Jésus menait la vie de béni dans les hôtels 5 étoiles. Mais non. On voit bien quelle vie il menait. Donc, ils vont prendre qu'un seul élément, ils vont en faire une doctrine. Ah non, il faut être riche. Mais Jésus ne l'a pas dit. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Il a dit clairement, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Mais si vraiment quelqu'un suit Jésus dans la simplicité, ma parole, il dit, ma parole est la vie. La parole suffit. Jésus suffit. pour nous montrer, nous entraîner vers Dieu, nous montrer la voie, nous donner la vie. Et nous sommes rassasiés. Jésus seul nous rassasie. C'est tout, bien-aimé. Il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus a la vie. Il donne. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Donc même juger, c'est Jésus qui va juger. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais tout le monde ressuscitera par quel miracle? Par la voix. Quand ils vont entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus, ils vont ressusciter. Sa parole a la puissance de ressusciter. Il a dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu était un mort spirituel. Il a reçu la résurrection. Il est devenu un enfant de Dieu. En entendant la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu dans sa simplicité. C'est là qu'on aura la foi. Il a dit à Pierre, viens. Est-ce qu'il a donné des doctrines pour que Pierre marche sur les eaux? Est-ce qu'il a fait des doctrines compliquées? Il a dit, viens seulement. Bien-aimé, quand ça commence à devenir compliqué, ce n'est pas de Dieu. Ou bien ce n'est pas pour nous. C'est pour d'autres ministères, peut-être, c'est pour d'autres personnes qui ont une particularité dans leur relation avec Dieu à connaître ces choses-là. C'est que Ézéchiel a vu, moi je n'ai pas vu ça. Voilà, c'est que Daniel a vu, moi je n'ai pas vu ça. Je ne veux pas vouloir en faire une doctrine. Que ça remplace le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui est le centre de tout. Alors, bien-aimés, c'est simple. Citons la parole de Dieu. Jésus a dit, sa parole peut ressusciter les morts. Citons sa parole. Parlons tout simplement de la parole de Dieu. Et c'est ça qui peut toucher les cœurs et changer les cœurs. Ne compliquons pas les choses. N'ajoutons pas. Ne retranchons pas. Disons simplement. Quand quelqu'un a la capacité de ressusciter les morts, spirituels et physiques, mais où voulons-nous aller pour trouver la vie éternelle? N'est-ce pas ce qu'avait dit Pierre? Seigneur, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, pourquoi c'est compliqué? Cherchons tout dans le Seigneur, à travers la prière et à travers sa parole. Tout simplement. Jean 20, 30 à 31. C'est un passage que je cite souvent. Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que quoi? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Il y a un terme que la Bible utilise, la vie. La vie, c'est la vie de Dieu. C'est ça que Dieu veut qu'on ait. Dieu ne s'intéresse pas aux choses de la terre, parce que ce sont des richesses injustes qui vont se corrompre. Elles ne sont pas fortes. Même la plus grosse quantité d'or, pour Dieu, ça n'a pas de puissance. Ça peut même tuer. Il y a des gens qui se sont tués pour des héritages. Parce que l'héritage était grand. Beaucoup d'or. Ça fait qu'ils se sont entretués pour ça. Ce sont des richesses injustes. La beauté, Dieu s'en moque, la beauté terrestre. Il sait qu'on va vieillir. Il veut nous donner la vie du ciel. Quelque chose qui est au-dessus. Quelque chose qui fait de nous ses semblables, des fils de Dieu. Il nous a fait cette grâce-là. Et nous, on veut quoi? On veut se distraire. Et il y en a qui ont fait des miracles, leur doctrine. Mais Jean nous dit quoi? Les miracles ont pour objectif de nous amener à connaître qui? Jésus. C'est ça l'objectif. Il dit, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. » Le but des miracles, il a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais le peu qu'il y a là, on vous le dit, pas pour faire des miracles une doctrine, mais pour que vous fassiez de Jésus votre doctrine. Quand Pierre, Jésus lui dit « Jette le filet ». Il jette le filet. Alors que pendant toute la nuit, il n'a trouvé aucun poisson. Quand il jette le filet se remplit à craquer de poissons. Qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Pierre a compris que la présence divine était là. Il ne s'est plus intéressé aux poissons. Et quand ils sont arrivés à terre, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est écrit dans Luc 5, 11, ils abandonnèrent tout et ils le suivirent. Pierre a dit, mais entre les poissons, là, la pêche miraculeuse, qui allait faire de lui un riche homme? Et celui qui crée le poisson, je choisis qui? Je choisis celui qui crée le poisson, parce qu'il peut... Est-ce que c'est pas logique? Malheureusement, aujourd'hui, les gens choisissent quoi? C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Nous voyons des gens, des touristes chrétiens. Moi, si je vous raconte ce que Jésus a fait dans ma vie, mais si tu as fait ce que Jésus a fait dans ta vie, mais tu n'es pas vraiment chrétien à 100%, mais laisse tomber. Parce que ce que Jésus a fait dans ta vie doit servir à ce que tu t'attaches à lui. Mais ils sont là, de micro en micro. Je vais donner mon témoignage. J'ai vu le ciel, mais tu vois, j'ai vu le ciel, on le voit, en train de faire son témoignage avec une grosse montre, en train de bien présenter, je ne suis pas contre les montres en or, hein, mais en train de bien présenter la montre. Si toi tu as vu le ciel, tu t'accroches à une montre en or, attends. Le ciel, c'est plus que tout ça. Si quelqu'un a vu le ciel, vous savez, les gens qui voient le ciel, il y a un pasteur qui a vu le ciel, et maintenant quand le Seigneur lui avait demandé de retourner, il ne voulait pas. Et sa femme qui était à son chevet a vu ça, que le monsieur est en train de résister. Et donc quand il revient, il dit, ah, il lui dit, mais tu as oublié qu'on était là, tu ne voulais pas revenir. Il dit, ma femme, excuse-moi, mais quand on a vu le ciel, ça dépasse tout. Excuse-moi, mais c'est comme ça. Quand on a vu la gloire de Dieu, on veut rester dans ça. N'est-ce pas que l'apôtre Pierre avait dit, Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut pas faire une tente ici? Comme ça, on reste là. Il a oublié qu'il y avait des moutons rôtis en bas là-bas. Il a oublié tout ça. La gloire de Dieu était supérieure. C'est ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner la vie. Il a dit, l'apôtre Jean dit, hein, tout ça a été écrit pour que vous vous attachiez à Jésus et que vous receviez la vie. Mais les gens, ils prennent tout ce qui est écrit. Ah ben, moi aussi, je veux prier pour mon mariage. Moi aussi, je veux prier pour avoir une voiture. Moi aussi, je veux prier. Donc, ils prennent ça comme une sorte de fétiche. Ah, donc, il fait tout ça. Mais moi aussi, je veux faire ça, comme ça. C'est une technique maintenant. Je vais invoquer le nom de Jésus, comme ça, moi aussi, j'aurai ce que je veux. Oh, reçois d'abord la vie. Quand tu as cette vie-là, la vie même que tu as va te donner la certitude que Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. Les gens aiment les techniques et les méthodes. Mais la Bible nous dit de nous attacher à Jésus. À Jésus seul. Et lui s'occupe du reste. Et, bien-aimé, si tu penses que c'est Jésus que tu avais choisi, mais ça ne marche pas toujours, dans ta vie, regarde bien, est-ce que tu lui as laissé tous les domaines de ta vie? Parce qu'il ne suffit pas de citer le nom de Jésus. Quand on dit seul Jésus, ça veut dire que tous les domaines doivent être remplis de Jésus. Tous les domaines. Quand tu laisses certains domaines à toi-même, eh bien, tout cela va affaiblir tout le reste, même que tu as donné à Jésus. Il faut tout donner à Jésus, la famille, ses projets, tout. Jésus doit être seul partout, comme un chef, comme objectif, comme dirigeant, tout. Seul Jésus, ça veut dire que si aujourd'hui, il y a toujours un blocage, je vais plus loin toujours avec Jésus. Ça veut, au fait, qu'est-ce que nous, on a l'habitude de faire? J'ai essayé avec Jésus, ça n'a pas marché, je vais essayer autre chose. Mais notre prédication aujourd'hui, c'est quoi? Tu as essayé avec Jésus, ça n'a pas marché, essaye encore avec Jésus. Continue avec Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui peut régler les choses. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ça n'a pas marché? Ben, va encore plus loin avec lui. C'est ça, bien-aimé. Toujours Jésus et Jésus seul. C'est important. Dans la simplicité, Jésus seul. La solution ne se trouve dans aucun autre nom, a dit l'apôtre Pierre. Jésus seul. En résumé, frères et sœurs, comment nous avons reçu le pardon des péchés? Par Jésus seul, par sa mort à la croix. Jean 3,16. Il a donné son fils à la croix. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 à 5, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus crucifié. Parce que c'est par là que nous avons le pardon des péchés et nous sommes réconciliés. Mais maintenant qu'il nous a pardonné et réconcilié avec Dieu, il reste encore lui seul. On ne doit pas le mettre dans un placard. Il m'a sauvé, je mets dans le placard. Maintenant, je vis ma vie. Et je commence à faire quoi? Je commence à me documenter dans la parole, écouter des séminaires à gauche, à droite, écouter YouTube pour devenir un chrétien fort. Tu te trompes. Tu écoutes pour mieux connaître Jésus, pas pour devenir un chrétien fort. Le chrétien fort, c'est celui qui laisse Jésus se faire connaître à lui et Jésus grandir en lui. Car Jésus seul peut nous amener à la croissance spirituelle. Plus on abandonne les domaines de nos vies à Jésus, plus on accède à la croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne vient pas parce qu'on s'est beaucoup documenté. Sinon, les gens qui font la théologie seront devenus des vrais chrétiens alors qu'ils deviennent des homosexuels et des escrocs. La croissance vient du fait qu'on accepte la parole de Dieu avec simplicité. Et on la vit comme étant une nourriture. Jésus seul. On lui laisse tous les domaines. On le boit. Il dit, c'est moi la source d'eau. On le mange. Il dit, c'est moi le pain de vie. Donc, quand on est qu'avec Jésus seul, on laisse tous les domaines à Jésus seul. C'est là qu'on grandit. C'est pas parce qu'on a beaucoup connu, on a fait beaucoup d'expériences. Non, c'est quand tout ça est Jésus seul, tous les domaines, c'est là qu'on grandit. Qui va résoudre les problèmes autour de nous? Jésus seul. Le problème de cancer, Jésus seul. Le problème de chômage, Jésus seul. Prenons Jésus et tout le reste va suivre. Est-ce que, vous savez, j'ai fait lire Jean 5, 24, mais sincèrement, je suis insatisfait parce que l'explication est grande et moi je ne peux pas expliquer ça. Donc, ce Jean 5, 24 dit que quand on entend la parole de Jésus, on reçoit la vie. La vie, dans la Bible, c'est la lumière, c'est tout ce qui chasse les ténèbres. C'est-à-dire que la voix du Seigneur va enlever les ténèbres, va enlever les blocages. Donc, on n'a pas besoin d'insister sur les blocages. La voix du Seigneur viendra et on donnera un ordre. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or, mais j'ai quoi? Il a dit, mais ce que j'ai, mais il n'a pas dit ce qu'il avait. Mais ce que j'ai, c'était quoi? C'est la vie du Seigneur. C'est la puissance qui ressuscite les morts. C'est la puissance, vous savez pourquoi l'infirmité, c'est quoi? C'est la mort. C'est la destruction. La mort et la destruction, c'est la même. C'est pratiquement synonyme. Mais lui dit, mais j'ai la voix de Dieu qui enlève la destruction, qui donne la vie, lève-toi et marche. Quand Pierre arrive devant Aîné, vous vous souvenez, Aîné est notre infirme encore. Qu'est-ce qu'il a dit à Aîné? est né, Jésus-Christ te guérit. Il n'a pas dit, c'est moi, Pierre, qui te guérit. Il a dit, Jésus te guérit. Mais comment il savait ça? Parce que Jésus était en lui, en Pierre. Jésus te guérit. Il avait la vie en lui. Et cette vie-là va chasser les ténèbres autour de nous. Quelles que soient les ténèbres, quel que soit le blocage, ça va chasser tout. Et maintenant, là, c'est l'étape, nos étapes. Croissance spirituelle, c'est Jésus. Tous les blocages autour, c'est Jésus. Prédication, c'est Jésus. Quand tu cites la parole de Jésus, c'est la parole qui ressuscite les morts, qui donne de l'intelligence pour que quelqu'un comprenne Dieu. C'est la parole de Jésus toujours. Les gens vont dire, mais non, avec de telles personnes, il faut parler de telle manière, ne suis pas les méthodes. Laisse le Saint-Esprit te faire sortir les paroles de Jésus. Même si ça paraît sans efficacité, c'est pas grave. Jésus lui-même sait ce qu'il fait. Si c'était une question d'efficacité, Jésus aurait préféré, il fallait que Étienne ne meure pas. Puisque Étienne était très efficace, hein. Il convertissait les sacrificateurs, il faisait beaucoup de miracles. Mais qui faisait ça? C'était Jésus. Maintenant qu'Étienne meurt, d'une manière humaine, c'était pas rentable. Comment il laisse quelqu'un qui produit beaucoup de fruits comme ça mourir? Mais qui est la source des fruits? C'est Jésus lui-même. C'est pourquoi il peut se permettre que quelqu'un comme Étienne meure. Il sait que c'est lui la source. On va jusqu'au bout. Le jour du jugement, qui va juger les morts et les vivants? C'est Jésus encore. Alors, où veux-tu aller? Va chez Jésus. Arrête les gesticulations. Arrête de te croire grand. Viens à Jésus. Que tu sois pasteur, je ne sais quoi, c'est Jésus seul qui doit tout faire. Tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église, a dit Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence tout et qui finit tout, a dit Jésus. Tout est accompli. Une autre façon de parler, de dire ça, c'est « J'ai tout accompli ». A dit Jésus. Alors où veux-tu aller? Revenons à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à revenir à toi, ô Éternel. Que tu nous aides à revenir à toi, Seigneur. À ne pas nous laisser perturber par nos propres raisonnements. Nous laisser perturber par les habitudes du monde, mais à prendre ta parole dans la simplicité, à prier et attendre que tu agisses. Ô Seigneur, tu nous rappelles que tu es la solution à tout. Peut-être qu'on s'est embêté, on a fait beaucoup de réflexions, on s'est torturé pour vouloir résoudre les choses, mais le jeune enfant amener tout simplement les 5 pains et 2 poissons auprès de toi, Seigneur. Il n'a pas voulu résoudre l'équation 5 pains, 2 poissons face à 5 000 personnes. Il a préféré te donner que toi tu résolves cette équation. Seigneur, aujourd'hui, nous venons tout te donner, Seigneur. Parce que c'est toi la solution. Comme Marie est venue te voir pour dire, mais il n'y a plus de vin. Nous venons te dire, Seigneur, prends tout aujourd'hui. Tu connais chaque détail, nous n'allons pas citer les choses. Mais Seigneur, tu connais, tu sais que nous voulons toucher le monde entier par ta parole. Tu sais que nous voulons que la puissance de la guérison soit de retour dans ton église. Seigneur, tu connais combien nous souffrons de voir un pays comme l'Inde, la Chine, avoir 2 milliards d'inconvertis, Seigneur. Tu connais nos soucis. Mais Seigneur, nous n'allons pas chercher par des moyens humains. Nous venons t'adresser les mêmes doléances pour te dire, tu es le seul sur qui nous comptons pour exaucer nos prières de guérison. Tu es le seul sur qui nous comptons pour exaucer nos prières, Seigneur. Et parfois, nous avons mal prié. Tu es encore le seul pour redresser ces prières, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu as donné ta vie à la croix pour nous. Merci Jésus. Ton amour est si merveilleux et nous te bénissons. Nous te confions la suite de nos vies, de notre parcours dans le service, éclairant en toutes choses. Seigneur, que nous ne cherchons pas à te gagner par les œuvres, au contraire, que nous puissions accepter ta grâce dans nos vies. Croire que tu nous as pris en charge, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.